Bonjour à tous, nous voilà déjà en décembre, l'heure de réfléchir à quel cadeau on va offrir à la famille, qui eux aussi de leur côté vont devoir réfléchir à quel cadeau vous offrir. On va chacun galérer de notre côté à choisir un cadeau suffisamment personnalisé pour pas qu'il fasse trop générique, et suffisamment cher puisque aujourd'hui en deux clics on peut voir combien a coûté ce qu'on offre. Autant dire qu'il est loin le fameux temps où on se contentait de déchirer avec violence le paquet cadeau amoureusement préparé par nos parents et qu'on jouait directement sans dire merci. Non, aujourd'hui on est entré dans l'âge des cadeaux jugements, c'est pourquoi je conseille à tout le monde de n'offrir un cadeau qu'à vous-même le jour de Noël. Comme ça on est sûr de pas être déçu, d'avoir dépensé pile la bonne somme et de pas se sentir jugé si c'est de la merde. Sinon, vous êtes bien dans le podcast plein de bonnes idées pour ruiner une soirée familiale et accessoirement sur la critique de l'actualité du cinéma vue par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 17. Pardon. Aujourd'hui, un programme qui va rendre hommage à la conférence de Yalta, puisque nous démarrons aux États-Unis avec Les Veuves, nous irons en Angleterre avec Robin des Bois, et nous irons écouter du Tchaïkovski avec Casse-Noisette et Les Quatre Royaumes. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de voleuses cagoulées, à savoir Marine et Fiona, et pour la première fois de l'histoire du podcast, nous avons quelqu'un qui ne fait pas partie de notre collectif soap. Oui, nous avons une invitée, en la personne de Claire, pas la Claire habituelle, hein, une autre. Hein. Claire, puisque c'est ta grande première, j'ai une question à te poser, est-ce que tu sais twerker ?
Pas du tout.
Très bien, c'est la bonne réponse. Passons au courrier des lecteurs, un message d'un certain Adam de New York qui veut nous parler des animaux fantastiques. Il trouve que le vrai problème du film est que le pauvre Newt n'est pas du tout le bon point de départ. On ne sait absolument pas ce que ce pauvre garçon fait là et qu'en fait, cette série de films aurait dû s'appeler The Wizarding World, The Dumbledore Years. Merci Adam et n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant, je parle pour toi Claire, ayant le malheur de dire le mot truc, entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Robin des Bois, écrit par Ben Chandler et David James Kelly, et c'est Marine qui nous le pitch.
Oui, donc c'est une adaptation toute personnelle de Robin des Bois. Donc Robin Loxley, ou De Loxley, je ne sais plus, Robin Loxley.
Je crois que c'est un noble, je crois que c'est De Loxley.
Oui, donc il est un noble et qui vit à Nottingham, et en fait il pense vivre une vie paisible avec sa copine Marianne, mais malheureusement pour lui, il est envoyé en croisade. Et lorsqu'il revient, il découvre qu'il a été déclaré mort et que ses biens ont été saisis par le shérif de Nottingham. Il les a saisis donc pour l'effort de guerre, pour les croisades. Et puis surtout que Marianne s'est remise en couple avec un autre homme. Donc Robin et son ami Jean, qui est donc un musulman qu'elle a rencontré au cours de la croisade, décident de voler le trésor du shérif, dont l'idée est de tarir en fait, le budget de l'église et d'arrêter la guerre. Et en fait, aidés par Marianne, ils vont parvenir à voler le trésor du shérif, à le tuer, à s'enfuir, et ils vont alors devenir des hors-la-loi et trouvent refuge dans la forêt de Sherwood, alors que l'ancien copain de Marianne devient le nouveau shérif et lui est prêt à traquer Robin. Et là, c'est épisode 2.
Alors, je trouve un des premiers problèmes de ce film, mais qui malheureusement, c'est pas de sa faute, c'est que moi qui suis né dans les années 80 et qui ai été élevé dans les années 90, le film de 91 de Kevin Costner est tellement ancré dans nos mémoires que j'ai pas pu m'empêcher de le comparer. Et c'est un film qui, ça on peut quand même le féliciter, enfin au moins le dire bravo, c'est qu'il essaie de se renouveler. Il fait pas un bête remake de ce qu'était le film en 91, c'est il essaye d'inventer d'autres choses et notamment c'est la disparition totale. Tu disais qu'il va dans la forêt de Sherwood, il va pas dans la forêt de Sherwood, il va chez lui. Son camp de base, c'est sa maison, son ancienne maison qui a été
démolie.
Ah, il va qu'à la fin, bon
voilà. Il part dans la
mais c'est qu'il y a très peu de forêts, il y a très peu de compagnons. Il y a 15 ans.
C'est un peu préquel. Non, mais parce que c'est un peu le préquel à justement celui qu'on connaît où il est réfugié dans la forêt et où il fait ses petites son harassment depuis la forêt. Enfin, moi j'ai vu ça comme une sorte de préquel.
Ouais, pareil.
Ouais, mais enfin, c'est le préquel, ça reste quand même un peu la même chose. C'est-à-dire que ça reste Robin des Bois qui va voler aux riches pour donner aux pauvres. Sauf qu'il n'y a plus de villageois, maintenant c'est des mineurs. Et c'est clairement un film qui essaye d'être moderne avec le shérif qui est une espèce d'une caricature de Donald Trump qui fait des discours anti-immigration en disant en gros les Arabes vont venir nous tuer. Alors que clairement les croisades c'était un petit peu l'inverse quand même. Et ça parle vraiment de ça, Fiona.
Oui, je suis d'accord et je suis d'accord aussi sur la vision de préquel de ce film. Mais surtout, je pense qu'ils ont la nouveauté qu'ils ont essayé de faire, malheureusement pas avec grand talent, c'est de le traiter comme un Marvel. J'ai eu cette impression-là, dans le sens où il y a un mentor qui lui apprend à bien se battre, etc., qui aurait pu le faire lui-même et qui d'ailleurs aurait été meilleur s'il n'avait pas perdu sa main. Il y a tous les codes, jusqu'à justement cette fin, où un peu à la double face dans dans Batman, où le copain qui était le copain de Marianne qui était censé être un révolutionnaire,
qui est Will Scarlet, ouais.
Se fait brûler un peu le visage et maintenant du côté du pouvoir et va traquer le mec qui lui a piqué sa femme, quoi.
Ouais, enfin ça, si on n'y croit absolument pas, si
c'est ça, il autre chose, okay.
mais rien que pour revenir là-dessus. C'est le mec qui était leader de l'opposition, qui est donc les mineurs, c'est lui qui les dirigeait. Il s'est fait piquer sa place de leader et sa copine par Robin des Bois. Et donc, par vengeance, il devient méchant. Enfin, on n'y croit pas une seconde, ça ne marche pas, ce retournement. Marine.
Non, bah, on n'y croit pas, parce que bon, déjà, l'intrigue est quand même extrêmement mal foutue. Moi, je pense que pour moi, le plus gros problème, c'est les personnages. Mmh. C'est-à-dire que les personnages, d'emblée, on démarre sur des stéréotypes. Donc lui, c'est un noble. Elle, Marianne, c'est une voleuse, mais bon, il tombe amoureux. Enfin, le shérif est très méchant. D'ailleurs, il parle avec une très grosse voix à chaque fois qu'il a un truc à dire.
On l'a entendu, Claire.
Moi j'ai trouvé, je rejoins exactement ce que tu dis, ça veut dire que moi aussi j'ai été bercée, je n'ai pas vu le Robin des Bois de Ridley Scott qui était plus récent.
Oui, je l'ai pas vu non plus.
Je suis bercée par toujours celui de 91 avec Kevin Costner, donc j'ai quand même trouvé que ça dépoussiérait. On était dans cette veine là, j'ai mes yeux d'enfant qui ont évidemment beaucoup aimé Robin des Bois, Prince des voleurs de 91, et donc là maintenant j'ai plus mes yeux d'enfant et en plus je suis devenue scénariste, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même trouvé que c'était pas si pire. Je m'attendais à pire. J'ai trouvé que ça faisait le job dans l'envie de moderniser l'histoire.
Ça, c'est vrai.
Avec le côté assez politique. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression. Alors, bon, vous allez hurler parce que c'est un truc un peu plus mis en scène.
Aïe, 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 Marine!
Oh non,
ça va être la fête.
Alors, en attendant de savoir ce qui va nous faire hurler, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait des tentatives, ne serait-ce que d'essayer de filmer les scènes de guerre avec les
musulmans.
Non, je cherche le nom de l'arc. Les arcs et les flèches.
À la place de
voilà,
flingues, en fait.
Exactement. C'est vraiment tourné de façon comme s'ils avaient des mitraillettes.
Ah non, mais c'est clairement. Enfin, c'est un reportage, c'est la guerre en Irak. Ils sont habillés exactement comme ça. Les ennemis ont carrément des mitraillettes. Ils ont des mitraillettes de flèches. C'est la guerre en Irak, pur jus. Mais avec des arcs et des flèches.
Mais au-delà, alors, je comprends ce choix-là, mais je trouve qu'il n'est pas bien tenu artistiquement. Même, bon, c'est pas du scénario, même dans les costumes. Je trouve qu'on oscille entre très moderne et vieux, façon un peu moderne. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence et d'homogénéité dans ce film.
Non, mais c'est vrai. C'est juste pour rebondir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où le shérif il débarque, ou même Robin des Bois, on dirait qu'ils ont des costumes Armani. Il y a un côté hyper moderne. Non, mais il y a un moment où je regarde et je fais, mais attends, c'est hyper anachronique. Mais moi, ça m'a pas tant dérangé. J'ai trouvé que c'était un. J'ai trouvé ça audacieux. Enfin, j'en sais rien. J'ai l'impression que pour le public qui est la cible de ce genre de film, c'est pas mal. Réconcilier un peu les gens avec le truc de cap et d'épée en passant.
Aïe, 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 tu l'as redit. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Nous, apparemment, on a le même film référence qu'en 91. Moi, je me demandais, est-ce que ce film va devenir la référence des enfants de l'année 2010? Je suis pas sûr, Marine.
Je pense pas. Déjà, je reviens au personnage.
Vas-y.
Du coup, on reste sur des personnages stéréotypés. Mmh. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'on n'accroche pas au film, outre le fait qu'effectivement, ils ont une direction artistique qui est... En fait, ils ont essayé de faire des choses.
C'est ça, ils ont essayé.
Ils ont essayé. Et ça, effectivement, tu peux pas le leur reprocher.
C'est louable.
Mais par contre, ils n'ont fait que les mauvais choix. Au fait, ils n'ont pas décidé. Et donc, c'est assez déséquilibré, en termes de direction artistique, de personnages, etc. Mais moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que les personnages ne sont pas travaillés. Par exemple, si tu prends Robin, je pense que ça aurait été plus intéressant si on avait pris le temps au début de l'histoire de faire une vraie scène de caractérisation où on te montre que c'est un noble et qu'il est absolument puant. C'est vraiment un noble, il se comporte comme le shérif, etc. Et qu'ensuite, ce qui lui arrive à la guerre le transforme. Parce que là, il n'a pas de... En fait, c'est même pas lui qui est moteur de sa quête et de son action, c'est son ami Jean qui lui dit « on va faire ça, et puis je vais t'entraîner, et puis on va aller voler le shérif, et tout ça. » Et du coup, il n'est pas du tout proactif. Et je trouve qu'il y a un vrai problème en fait sur tous les personnages et notamment celui de Robin.
C'est une bonne remarque, mais attends, avant que je te donne la parole, c'est quand même un personnage extrêmement positif. Il a quasiment aucun défaut. Le fait qu'il soit noble ne change rien là-dedans. Je veux dire, ce film ne dit pas les nobles sont tous méchants. Le shérif est méchant.
C'est ça que je veux te dire. C'est que ça lui aurait donné une trajectoire intéressante. On avait démarré le film en te le caractérisant en fait et en te disant voilà, on le démarre de très haut. Il est vraiment puant. Il considère tout le monde très mal. Et puis quand tu reviens, il a tout perdu et il se retrouve à repartir à zéro. Et ça lui aurait peut-être donné un moteur suffisant pour se dire maintenant je change. Or là, effectivement, il est parfait de bout en bout.
Il est parfait de bout en bout, Fiona.
Il est parfait, sauf, voilà, sauf au niveau du charisme, c'est ce que j'allais dire, mais bon, c'est autre chose. Non, mon problème, en plus des personnages qui sont absolument vides, c'est vraiment des coquilles vides, bah, c'est, je pense qu'il a, fait une recherche Google cliché au cinéma. Il a fait un top 10 et il a tous mis dedans. Il y a tous les regards, mon Dieu, les champs contre champs de regards entre Marianne et Robin.
Ouais.
Je peux même pas les compter, je pense.
C'est un peu gênant.
C'est-à-dire que trop, l'histoire d'amour, encore une fois, n'est pas travaillée. Ils sont restés sur... même là, on n'est plus sur du stéréotype. C'est juste des échanges de regards ou des dialogues extrêmement convenus. Les dialogues sont catastrophiques, ça, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Les dialogues sont extrêmement mauvais.
Et qu'au lieu de créer une vraie histoire d'amour et de construire les choses, bah, on reste sur des relations qui n'évoluent pas parce que les personnages n'ont pas été caractérisés.
Pour en revenir sur cette histoire d'amour, le conflit principal entre Robin et Will, c'est Marianne. Et Robin en veut à Marianne, mais au point quasiment de vomir, parce que Marianne le croit mort, ça fait 2 ans qu'il
il
croit mort.
Il vomit à un moment, il me semble.
Il vomit.
Il vomit, il arrive, Marianne a refait sa vie, il lui pardonne pas, il veut pas lui parler. Mais attends, elle te pensait mort depuis 2 ans, excuse-la.
Elle l'a enterré, le gars.
Excuse-la de refaire sa vie, hein. Oui, Marine.
Aussi, au niveau de l'intrigue, moi j'ai pas compris, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer, mais pourquoi c'est à Nottingham qu'il y a tout le fric pour faire la guerre, pour faire la croisade.
Honnêtement, c'est pas très très grave.
Bah si, parce que il y a pas de raison. Enfin, je veux dire, Nottingham, c'est une petite ville. Non mais
je me suis fait exactement la même réflexion en me disant, non mais attends, c'est ici qu'est concentré tout l'argent. Mais je suis pas sûre que ce soit ça en fait. C'est ça. Non, c'est juste une province parmi tant d'autres qui donne tout son argent.
Moi, c'est ce que j'ai compris.
Moi, j'ai compris que Petit Jean, en fait, voulait commencer par là. Mais par contre, la question, c'est pourquoi Petit Jean.
Non mais c'est réglé. Surtout, c'est réglé en un seul dialogue, parce que ils arrivent et lui, le dialogue, attends, c'est quoi exactement? Il lui dit bah c'est très bien, on va commencer par là.
On va commencer par là.
Attends, ils habitent là.
Mais non, la vraie question, c'est pourquoi Petit Jean fait tout ce chemin, combien, j'imagine 3 mois dans une cale de bateau sans bouffe et sans eau.
On sait pas comment il a tenu.
On sait pas comment il a tenu.
Oui, c'est vrai.
Pour aller retrouver Robin, qui certes a essayé d'épargner la vie de son fils. Mais pourquoi lui, c'est lui qui va m'aider?
Ouais, non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est le premier truc à gober qu'on gobe pas.
Oh non. Alors, par contre, est-ce que, je suis désolée, oui, je reprends la parole pour la redonner à Claire parce que je voulais savoir ce qui allait nous faire bondir tout à l'heure au niveau de la mise en scène.
Je ne m'en rappelle plus. Ça vous apprendra à me buzzer. Non, je me souviens plus. C'est vrai.
Très bien. Mais oui, non, mais Petit Jean, comme tu dis, c'est quand même la mécanique de Marvel. C'est-à-dire, c'est lui, le vieux sage qui perd sa main et donc qui était meilleur. Lui, il aurait fait un meilleur boulot que Robin des Bois. Quoi.
Il a beaucoup plus de charisme. Enfin, c'est un personnage beaucoup plus intéressant que.
Ouais, mais honnêtement, ça m'a fait très bizarre quand il a dit je suis Petit Jean. Quoi, parce que je me suis encore arrêté de la version 91, je sais qu'il faut que j'arrête. Et je me rappelle plus comment il s'appelait dans la version ancienne, le Petit Jean qui était joué par Morgan Freeman. Mais Petit Jean, c'était un autre personnage. Là, quand il m'a dit je suis Petit Jean, ça m'a choqué, quoi.
Ouais,
je veux dire, c'est le même personnage. Ça me fait.
Ça, bon, c'est pas grave parce que c'est un nouveau film. Moi, celui de 91, je crois que j'ai même pas vu.
Ah oh.
Ouais, non, mais je crois que je l'ai pas vu. Donc j'ai le regard frais pour vous dire que c'est un mauvais film en dehors du fait qu'il trahit vos souvenirs d'enfance. Hein.
Non, mais il y a pas que ça.
Ça aide pas.
Concernant Claire. L'histoire de Petit Jean. Ils évitent le syndrome de Trinity en lui coupant la main, ce qui n'est pas idiot, je trouve, parce qu'effectivement, sinon, bah, c'est sûr qu'il est meilleur. C'est sûr que pourquoi c'est pas lui le héros, il est meilleur en tout. Bon, pas de bol, il se fait couper la main. Non, je trouve que concernant cette histoire de fric qu'il faut soutenir, un effort de guerre qui est loin, etc. Enfin, il y a quand même des trucs, je veux un.
Attends, tu peux expliquer un petit peu peut-être au public le syndrome de Trinity?
C'est-à-dire le syndrome de Trinity, parce que non, c'est porté dans Matrix par Trinity, mais bon, moi j'ai un peu élargi pour dire que finalement c'est une minorité comme une autre, ce pauvre Jamie Foxx, donc qui aurait pu être une femme. C'est le fait que le personnage féminin qui est meilleur en tout, qui sait tout et qui devrait être le héros, n'est pas le héros. Et en l'occurrence, Jamie Foxx, il pourrait très bien être le héros, c'est lui qui pourrait aller à l'assaut des châteaux, etc. Bon,
ça aurait été plus intéressant.
Comme c'est un archer à qui il manque une main, il apprend à Robin. Bon, ce qui est un peu grossier au départ, effectivement, après cette espèce de mensonge, ou pourquoi là, d'un coup, il plaque tout pour aller dans une cale et pour aller en
surtout
Angleterre.
Qu'il Icotéris s'appelait 3 mois après, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pensé qu'il allait se faire installer un manchon avec un truc pour pouvoir...
Aïe.
Mais ce coup-ci, je l'ai vu venir.
C'est bien un progrès. Mais c'est vrai qu'on va revenir à quelques incohérences de ce film. Il y a cette fameuse scène où Frère Tuck est le comic relief, qui personnellement m'a pas fait rire, mais je dois avouer que tout le monde était mort de rire dans la salle. Mais il y a surtout ce moment où il dit on va faire croire, parce qu'il y a deux méchants, il y a le shérif de Nottingham et le pape du coin, je crois, je ne m'appelle plus exactement, je crois que c'est un cardinal, voilà, c'est ça. Et en gros, donc, Robin des Bois arrive et le shérif dit oui, je lui fais confiance. Et là, d'un seul coup, il balance son plan. Ils disent oui, bah là, on est en train de trahir le roi. Et... Non, mais attends, mais c'est le crime le plus. Il y a les deux crimes, je me suis renseigné, les plus importants de la royauté, c'est tentative de meurtre sur le roi et tentative de trahison sur le roi. Et là, il avoue un crime devant un mec, il le connaît depuis 5 minutes. Ah oui, tiens, bah rentre, Robin, je vais te montrer comment on va essayer d'avoir le roi pour prendre de l'argent pour qu'il continue à rester dans le croisade.
De toute façon, Marine... l'intrigue du scénario, c'est une compilation de facilité. Enfin, pour moi, il y a la scène où il doit rentrer dans la salle pour savoir ce qui se dit entre le shérif et le cardinal. Et il utilise Frère Tuck pour ça. Sauf que c'est complètement grossier parce qu'il prend Frère Tuck et il le pousse, juste il défonce la porte en fait, et en disant
que c'est un traître.
Mais tu comprends.
Ça n'a aucune garantie.
Ça n'a aucun sens déjà. Et surtout, c'est la solution la plus simple. C'est il doit rentrer dans la salle, bon, il défonce la porte et il rentre dans la salle. C'est l'intrigue n'est pas travaillée. Ça ne rend pas Robin malin et ça ne met pas en avant sa relation.
Alors là, je suis pas totalement d'accord avec toi.
L'intrigue n'est pas construite.
Non, parce qu'il prend un gros risque et puis juste après, la conséquence, c'est qu'il lui demande de le tuer et il est obligé de trouver une solution pour lui épargner la vie.
D'accord, mais pareil, même la solution qu'il trouve pour lui épargner la vie. Elle est quand même touchy, quoi. Elle
oh non, moi je trouve ça. Bah, raconte-le, c'est quoi sa solution?
C'est qu'il dit, mais il faut qu'il soit le.
Il dit, il y a pire que mourir, on va le défroquer, il va être humilié.
Admettons, mais ce que je veux dire, pourquoi je suis d'accord en disant que ça ne le rend pas malin, son plan, c'est qu'il n'a absolument aucune garantie qu'en rentrant dans la salle et en déboulant avec un traître, ils vont lui dire, mais reste donc, prends le thé avec nous. Mais
surtout qu'ils sont dans une réunion extrêmement confidentielle. Ouais. Donc,
comme tu viens de le dire.
Oui, après, alors moi, je suis là, pour le coup, je suis pas hyper d'accord. Je tempère un peu, je défends un
Merci,
peu le petit bébé. J'ai eu quand même le sentiment, en regardant le film, qu'on voyait qu'étaient passés par là les Game of Thrones et autres...
Vas-y, dis-le.
Série.
Autre série où le politique a quand même un rôle important. Et il y a toute la première phase du plan de Robin des Bois qui consiste à amadouer le shérif en lui redonnant son propre pognon, etc. Que j'ai trouvé pas inintéressante. Ce qui n'est pas évidemment évidemment le meilleur plan de la Terre et c'est pas le meilleur scénario qu'on a vu écrit de ces dernières années, c'est sûr. Mais j'ai trouvé que ce processus-là était pas inintéressant.
Je suis d'accord. Et comme on dit, ils ont essayé dans ce film. On en revient encore à la version 91, il n'y a pas du tout cette composante de double personnalité. C'est Clark Kent et Superman, j'essaie de te manipuler et de faire croire que je suis avec toi et dans ton dos, je vais voler ton pognon. Et ça, c'était plutôt intéressant. Ils l'ont pas bien fait, mais l'idée était intéressante. Fiona. Ouais.
Moi, je peux vous rejoindre sur ce point-là. Hein. Je peux être plus tolérante, mais par contre, l'histoire d'amour, c'est vraiment...
C'est ce que j'allais dire.
C'est vraiment une catastrophe.
L'histoire d'amour, elle plombe
déjà,
tout le film.
Déjà, on commence... L'histoire d'amour, elle commence parce que Marianne va voler un cheval avec une tenue, tu as remarqué, Marine. Je te laisse décrire, après, je reprends.
La tenue, bah, elle est entièrement couverte avec son voile et puis elle est en...
C'est vrai qu'on dirait un peu...
Elle a un décolleté gigantesque.
Tu ne vois que son décolleté dans toute la scène. Donc, c'est le premier plan du film, quasiment.
On comprend pourquoi Robin tombe amoureux, on va dire.
C'est peut-être plus facile de voler un cheval comme ça, vous n'en savez rien.
Il la plaque au mur. Il la plaque au mur dans une scène soi-disant torride.
Il tourne 8 fois l'un sur l'autre pour se plaquer contre des murs.
Il arrête pas de tourner l'un sur l'autre et puis ils font que s'embrasser et faire l'amour, quoi. Globalement, c'est un peu tout. Et ce qui m'a vraiment énervé, c'est que quand il revient, Robin, il va pas lui parler parce qu'il a vu qu'elle était avec un autre mec, etc. Et même, elle vient à lui. Et Petit Jean lui dit non, ne va pas la voir parce que maintenant tu as. Notre secret de Robin des Bois, mais il peut toujours être Robin Locksley. Pourquoi il va pas lui parler? C'est horrible.
Non mais ça on n'est pas d'accord. Il lui dit pas ça.
Il lui dit c'est dangereux.
Oui, mais du coup il va pas.
Non, il y va en retard. C'est déjà barré. Non, on n'est pas d'accord sur cette scène.
Pourquoi il agit comme un gros con avec elle?
Non mais de toute façon, il y a un problème de maturité. Un, il ose pas lui parler parce qu'elle a un nouveau copain alors qu'elle le croyait mort depuis 2 ans. Et après Will, à la fin du film, quand lui voit Robin des Bois et embrasser Marianne, bah il boude. Non, je viendrai plus. Le plan, c'est comme ça, bah moi je viens pas.
C'est vrai qu'en vrai, ouais,
d'accord,
dans l'histoire,
on est en plein braquage là quand même.
Dans l'histoire, Marianne, c'est elle qui est quand même un petit peu. Enfin, règle tes affaires, meuf, choisis ton mec, communique avec ton Will.
Oui, mais
l'homme que j'aimais est revenu.
Non, mais le problème, c'est qu'elle est dans une situation très compliquée. Elle est dans la même situation que la femme, j'ai oublié le nom du personnage, dans Seul au monde, où t'as Tom Hanks qui est perdu dans son île, et quand il revient, elle a un nouveau mec. C'est un problème qu'elle est amoureuse, son nouveau mec. Il y a son ancien qu'elle croyait mort qui revient. C'est un problème très compliqué pour elle.
Mais c'est pas parce que tu ne connais pas les personnages, et du coup, tu les suis pas dans leur
histoire. On est censé les comprendre, mais c'est parce que tu n'as pas été ému par la scène où ils se tournent en rond.
Au-delà de ça, justement, là, c'est maltraité aussi. C'est maltraité aussi, justement, c'est que à un moment, justement, quand Will est en danger, etc., elle est prête à se barrer complètement en l'abandonnant. Et c'est Romain qui dit peut-être aller le sauver, non ton, oui. Tu sais, amoureux depuis 2 ans avec qui t'es fiancé sans doute. Elle fait t'es sûr, non? Et c'est lui qui y va. Je me dis, mais en fait, cette fille, on voit pas du tout sa dualité. On voit qu'elle aime Robin et qu'elle quitte pas Will, c'est tout.
Non, mais alors, pour encore défendre le film. Ils sont en plein braquage, faut rester sur le plan, et le plan disait qu'il fallait se barrer maintenant, et ça compromettait le plan d'aller le chercher. Je pense que ça aurait été n'importe qui, elle aurait dit c'est pas le moment d'aller le chercher.
Ça aurait été Robin, elle serait allée le chercher.
Oui,
non, mais effectivement, le fait que je pense qu'ils ont mis Marianne parce qu'il fallait, parce que c'est Robin et Marianne, ça fait partie du cliché de l'histoire que tout le monde connaît sur Robin des Bois, elle aurait pas été là, effectivement, c'est le même film. T'enlèves Marianne, ça change absolument rien, ça n'apporte rien. Enfin, là, je suis en train de refaire le film dans ma tête parce que vous en parlez, et parce que justement, c'est drôle quand je regardais, je me suis dit ah bah tiens, c'est un deuxième film de braquage. Effectivement, il y a vraiment ce côté
qui est plutôt pas mal d'ailleurs, le
qui marche aussi, qui est assez original, qui n'a pas déplu non plus.
Bon, après, c'est quand même, je sais pas comment ils avaient calculé exactement pour faire tomber la croix, pour que la chariote s'arrête exactement au bon moment pour qu'il fasse péter le sol, mais le plan est quand même plus ou moins intéressant.
Mais effectivement, c'est vrai que t'enlèves Marianne, ça ne change rien. Donc,
les personnages féminins.
On va conclure sur ce film. Je trouve que. Clairement, il prévoit un numéro 2 en disant « Regardez, maintenant, c'est le nouveau méchant. » Mais la dernière scène, c'est donc Will qui reprend le poste du shérif et il placarde, enfin, il a une affiche de Robin des Bois en disant « On va le choper. » Robin des Bois monte sur le toit et tire une flèche. Donc ça veut dire « Tu n'es pas dangereux, je te tue quand je veux, mec. » Donc, quel intérêt du 2 ? Le méchant du 2 n'est déjà pas une menace. Donc, le 2 n'a aucun intérêt. On va terminer sur ce film. Tour final sur ce film, Claire.
c'est un film qui, je pense, pour un public plus jeune et moins aguerri, fait le job, mais qui, moi, ne m'a fait ni chaud ni froid.
Trop bien, oui, Marine ?
Pareil. je trouve que c'était noble de vouloir essayer quelque chose de nouveau sur Robin des Bois, mais c'est comme s'ils avaient pris que les mauvaises solutions. Du coup, c'est un peu dommage.
Ok, Fiona ?
C'est clairement pas un bon film, mais je pense qu'effectivement, c'est très adolescent, cette romance et tout ça. Donc... Mais je pense quand même que les adolescents ont des choses mieux à voir que ça. Voilà.
Écoute, on est très loin du bon film, mais on est très loin de la catastrophe aussi. C'est un film qui a essayé de faire des efforts, qui n'a pas réussi. Mais c'est comme voir un enfant essayer de faire du vélo et se casser la gueule. Tu lui dis, bah c'était bien, bravo, tu t'es fait mal au genou, mais essaye de remonter, mais pas devant moi.
Une tentative de marvelisation de Robin des Bois.
Bah oui, mais Marvel fait des milliards tous les ans, on comprend
que
les
autres français essayent de la tentative, de calquer, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de fond. Voilà.
Ouais. On enchaîne avec Les Veuves, écrit par Steve McQueen et Gillian, et c'est Claire qui nous le pitch.
Alors, Les Veuves.
Gillian Flynn, pardon.
Comment ?
J'ai oublié le nom de famille. C'est Steve McQueen et Gillian Flynn. Claire.
Donc, Les Veuves, c'est l'histoire d'une femme qui est plutôt aisée socialement, qui perd son mari dans un braquage qui tourne mal. Puisque donc son mari est le chef d'une bande de braqueurs qui se fait exploser par le SWAT avec ses 3 acolytes et son butin. Quelques jours plus tard, le propriétaire du dit butin, c'est-à-dire 2 millions d'euros qui doivent servir à financer une campagne politique, vient frapper à sa porte en lui demandant de rembourser ses 2 millions d'euros. Évidemment qu'elle n'a pas et pour bien appuyer son propos et lui montrer à quel point il est dangereux, il va tuer son chauffeur pour vraiment lui montrer que la menace est réelle. Alors heureusement pour elle, son mari lui a légué, en plus de cette grosse dette, un petit carnet magique dans lequel il y a tous ses anciens braquages passés et son prochain coup, qui est quasiment en kit. Il y a plus qu'à go. Elle est sauvée. Si elle fait ce braquage, elle va pouvoir rembourser sa dette au méchant. Et évidemment, elle ne peut pas le faire seule. Donc, elle fait le tour de ses autres veuves qu'elle ne connaît pas avant le braquage pour les convaincre de faire avec elle ce dernier coup qui va la sauver. Voilà, à peu près.
Très bien. Marine ?
Ah, c'est moi qui commence. Mm-hmm. Comment dire ?
Essaie de commencer par ce que tu as aimé dans le film.
Ce que j'ai aimé, bah, je trouve que le concept est chouette.
Très intéressant.
Ça démarre bien, t'es assez pris avec l'histoire, les personnages, c'est un concept original. Mais par contre, en termes d'intrigue, je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, je ne suis pas certaine que ça tienne la route jusqu'au bout. C'est-à-dire que, donc, à partir du moment, donc, attention, gros spoil, on se réalise que le mari de du coup, Véronica, qui est le personnage principal, en fait, n'est pas mort.
C'est le twist final du film.
C'est pas le twist final parce que ça arrive au milieu quand même. Hein.
Non, pas au
milieu. Ah si, elle va, elle cherche un nouveau chauffeur pour son braquage et donc elle va voir la dernière veuve. Et en fait, en allant voir la dernière veuve, elle découvre, grâce à son chien qui est magique, qui cherche, qui du coup aboie en sentant l'odeur de son mari, qu'en fait son mari n'est pas mort et qu'il est chez cette nana donc, avec qui visiblement il a une relation.
Non, il y a le chien et la flasque.
Ouais, et la flasque aussi, au cas ça t'aurais pas compris. Et et donc. À partir de là, je trouve que l'intrigue ne tient plus la route et je ne comprenais plus les motivations des personnages, de pourquoi finalement il lui avait laissé ce carnet, pourquoi est-ce qu'elle faisait ce braquage, pourquoi est-ce qu'il récupère ce fric à la fin. Ça devient une espèce de flou total et ça m'a perdue au milieu du film.
Très bien, Fiona.
J'ai trouvé le film pas mal, j'ai plutôt pris plaisir à le voir, surtout ça commence quand même un peu trop lentement à mon goût, mais je trouvais surtout en fait, le concept des veuves de braqueurs qui vont terminer le dernier job alors qu'elles sont novices et qu'elles doivent tout apprendre et tout faire à la perfection, je trouve vraiment ça bien, et je trouve que la scène du casse, enfin comment elle se prépare au casse, je trouve ça vraiment intéressant, toute cette mise en place très intéressant, et c'est un peu pour moi ce à quoi aurait dû ressembler Ocean's 8. parce que je trouve très intéressant, là, si je développe un petit peu ça, par exemple, elles ont un plan, mais elles ne savent pas à quoi ça correspond. Et c'est le genre de scène qui, normalement, dans les films de casse, sont expédiées, on sait à quoi ça correspond. Et là, on se dit plus, si moi je devais faire un braquage, j'ai ça, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc,
après, elle trouve la solution un peu par hasard.
Effectivement, il y a des hasards, mais dans l'idée. Il y a quand même plusieurs étapes, oui. Ça se cherche quand elles vont faire des Tupperware au poids des billets pour voir si elles sont capables de les porter. Je trouve que c'est vraiment bien, super ça. Donc il y a plein de petites astuces qui fonctionnent bien. Malheureusement, l'histoire est trop diluée dans une complexité avec donc, cette histoire politique et ce retournement qui ne fonctionne pas.
Qui
ne fonctionne pas parce que c'est pas logique en fait. En gros, ce type-là, qui est joué par Liam Neeson, veut quitter sa femme avec du pognon pour rejoindre son autre femme et son nouveau bébé. Il n'a pas les couilles de le faire directement, simplement. Du coup, il met en scène donc, sa fausse mort en faisant un braquage. Il lègue quand même à sa femme de quoi payer sa dette avec un carnet magique, justement. Sauf que, a priori, elle peut leur donner le carnet, ils vont quand même dire « donne-nous quand même les 2 millions », donc ça la protège de rien du tout.
Il y a quelqu'un qui lui dit, je crois, il y a un des personnages qui lui dit « de toute façon, le carnet ne leur suffira pas ».
Ouais, c'est ça, exactement. Donc son plan est un peu pété. Et en plus, donc, ce personnage de Liam Neeson, il doit de l'argent au politicien qui est joué par Colin Farrell en lui disant « t'inquiète pas, t'auras ton million ». Comme s'il n'avait pas déjà gagné les 2 millions alors qu'il les a. Et on peut croire que justement il attend que sa femme et les autres veuves fassent le casse à sa place, mais en fait non, puisque quand il la voit, il lui dit t'aurais juste dû, c'était pas prévu comme ça, t'aurais juste dû donner le carnet, t'aurais pas dû faire ce casse. Et après il lui dit j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin de ces 5 millions. Ben non, clairement pas, puisque t'avais pas prévu de les avoir à la base. Donc c'est là où c'est vraiment le bordel en fait.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas compris, parce qu'on découvre vraiment pour une scène que Liam Neeson et Colin Farrell sont complices, puisqu'ils se retrouvent sur un bateau en train de dire. Et ils s'engueulent en disant « Ah, tu me dois tant d'argent ». Et ça, c'est un coup que je n'ai pas compris de quel argent il parle, parce que Liam a quand même réussi.
C'est Colin Farrell qui a l'argent.
Ben oui, parce, non, mais à la base, il a réussi à les piquer, ces 2 millions de dollars. Il a fait croire que ses amis étaient morts, il a mis un faux corps à sa place, et puis on le voit se barrer avec 2 sacs remplis de billets, qui lui, il n'a pas de problème à les porter. Hein. Mais donc, du coup, je n'ai pas compris où était passé cet argent.
Je pense que c'est pas le même, en fait.
Peut-être, mais
on dirait qu'il parle des 5 millions, alors que c'est.
Mais je pense que c'est un argent qu'il doit d'avant. Je pense que c'est moi, de ce que j'ai compris.
Ah, tu as compris. Oui.
Comment ?
Enfin, c'est de ce que tu as estimé du film.
Je pense que c'est une dette qu'il a envers lui depuis avant le truc du braquage. Il est un peu coincé avec Colin.
Non, mais un des problèmes de ce film, moi, je trouve, c'est qu'il y a trop d'intrigues. C'est-à-dire que l'histoire du braquage est plutôt pas mal, mais toute l'histoire politique avec cet ancien gangster qui décide de s'enfoncer dans la politique et Colin Farrell, qui aurait pu être intéressant, qui est en train de se rebeller contre son père, qui est un vieux de la vieille, un odieux raciste. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait dans ce film ? Ça n'a aucun intérêt. Et d'autre part, en plus, ce n'est pas bouclé. Si ce n'est qu'à la fin, on nous apprend que c'est Colin Farrell, alias Jack Mulligan, qui gagne l'intrigue. Mais ça nous fait ni chaud ni froid. On s'en fout de tout ça.
Je suis d'accord que c'est en trop, parce que quand tu vois les scènes avec les femmes, t'as envie d'en voir plus. Mmh. T'as envie de plus de justement où elles préparent leur braquage. Et à chaque fois qu'on voyait les scènes avec Colin Farrell ou avec Liam Neeson, t'as envie de revenir au sujet principal. Et c'est un peu comme s'ils leur volaient la vedette. Enfin, je vais un peu sombrer dans les clichés féministes. Mais moi, c'est le sentiment. À chaque fois, j'étais là. Ah, mais c'est un film sur Viola Davis, Michelle Rodriguez, enfin, sur ce personnage-là que t'as envie de suivre. Et j'ai pas envie de suivre l'intrigue politique avec Colin Farrell et Liam Neeson. Ça m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je suis venue voir le film.
Oui, Fiona.
Je suis d'accord, il y a plein de scènes. Par exemple, justement, la scène où le tueur à gage, là, Jatem Manning, il tue des rappeurs. Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là ?
Ah non, mais ça, c'est une scène de caractérisation pour montrer.
On a quatre fois des scènes de caractérisation.
Mais bizarrement, moi, je les ai trouvées pas mal. Quand la scène où il va planter l'handicapé dans son bowling.
Elles sont pas mal, mais elles sont déconnectées.
Et surtout,
ils comprennent que les méchants sont vraiment hyper méchants.
Est-ce que t'as compris le scène comme prendre quatre fois, on a compris.
Mais pour en revenir à lui, justement, je trouvais ce personnage très menaçant, c'est un très bon antagoniste, et il meurt d'une façon complètement stupide. Alors, de un, c'est un énorme Deus, de un qui est. Alors, je me rappelle plus comment il a su pour le braquage, mais admettons qu'il sait pour le braquage.
Il la suit.
Mais pourquoi est-ce qu'il vient tout seul ? Il n'est jamais seul pendant tout le film.
Oui, il y a du bruit.
Là, bizarrement, il est tout seul. Il pique la
voiture.
C'est ça, il pique la camionnette. Les quatre filles arrivent à voler une voiture, on ne sait pas comment, à le poursuivre. Et déjà, en termes physiques, ça ne marche pas. Et il y a une camionnette qui est beaucoup trop lourde pour sa voiture, même si elle rentre dedans, en plus, il conduit assez vite. Et d'un seul coup, il perd le contrôle de son véhicule, il rentre et il meurt. C'est trop facile. C'est un énorme Deus, et ce n'est pas une fin digne d'un méchant qui était pourtant vraiment pas mal.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le. Alors, effectivement, peut-être sur la physique des voitures, ça ne marche pas. Mais pour moi, la voiture, on l'a pas vue, mais c'était quelque chose qu'ils avaient préparé au cas où. Pour moi, c'est dans leur plan.
T'es en train de surinterpréter.
Je pense que sa voiture, c'est sa voiture. C'est-à-dire que le mec, en fait, il la suit. On le voit depuis plusieurs jours. Il passe son temps à la suivre. Il la suit quand elle est dans son camion. Lui, il l'a pas suivi avec une trottinette électrique. Il est derrière avec sa propre voiture.
Et donc, il a laissé les clés dessus.
Oui. Je me suis dit, il a switché, il est monté, il leur a piqué la camionnette, les filles se retrouvent comme des connes. Enfin, moi, pour le coup, je suis pas d'accord. D'ailleurs, je suis quand même pas d'accord avec vous. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça veut dire qu'il part à fond avec la camionnette et j'étais vraiment dégoûtée. Je me dis, mais non, mais c'est horrible. Et j'ai vraiment pas vu le coup venir des filles qui arrivent à fond, qui lui rentrent dans le cul, qui lui font avoir un accident. J'ai trouvé que c'était plutôt réaliste. C'est assez moche comme fin pour lui, mais j'étais pas vraiment désespérée de ça, parce que je trouvais que c'était un peu bien fait pour sa gueule. J'ai trouvé ça inattendu, plutôt jouissif, franchement. Je me suis dit, oh là là, ça y est, ça repart sur un truc, il va falloir qu'elle récupère.
Non, mais le problème, je suis d'accord avec toi, c'est inattendu, mais il faut que ce soit inattendu et logique.
Mais c'est surtout Marine. Si on avait eu plus de temps pour, je sais pas, nous montrer par exemple qu'il y en a une qui est capable de démarrer une voiture sans les clés, déjà ça m'aurait semblé moins tomber du ciel à ce niveau-là. Mais même si la scène est sympa, effectivement, moi j'étais assez contente qu'il crève, même si c'est pas forcément digne de la hauteur de son côté de méchant. Je trouve vraiment qu'on a manqué de temps sur ces personnages féminins et sur leur intrigue pour nous faire accepter ce genre de situation. Qui en soi sont pas mal, mais pas assez amenées.
Fiona ?
Je trouve qu'effectivement, il y a des problèmes dans leur plan, ne serait-ce que aussi de voir qu'il y a encore des gens dans la maison. A priori, si elles se sont beaucoup préparées, elles auraient pu se préparer au fait qu'il y avait le père
qui clairement vit là. Hein.
Voilà, donc ça c'est un peu dommage, ce genre de faiblesse-là. Mais ceci dit, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes trouvailles. Bah, justement, la scène dont tu parlais sur le petit chien qui se rend compte, qui aide à se rendre compte que Liam Neeson est vivant. Alors moi, au début, comme je voulais vraiment pas qu'il soit vivant, je pense, dans ma tête, je pensais juste qu'il sentait son odeur, qu'il trompait sa femme et c'était tout, et c'était suffisant, en fait.
Qu'il avait ses fringues.
Exactement, et je trouvais ça malin de voir que ce chien qu'elle traîne partout, c'est logique, en fait, en vrai, les chiens font ça, quoi. Donc, je trouvais ça chouette. Et moi, ce que j'aurais vraiment voulu voir, en fait, c'est il est vraiment mort, stop, on n'en parle plus. Ils font le braquage parce que sinon, parce qu'elle est menacée de se faire tuer. Et en fait, pendant tout ce processus de préparation du braquage, elle se rend compte que son mari n'est pas l'homme qu'elle pensait. Enfin, n'est pas autant. Enfin, elle savait que c'était un braqueur, mais justement, elle l'a trompé. je trouve ça, ça aurait été sympa de voir ça.
C'est un peu moins grave de tromper sa femme que de braquer des banques. Mais
Oui, non, mais elle le savait, ça. Donc, oui, elle le savait, voilà, ouais. Donc, ou alors, elle le savait pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose à jouer là-dessus. Et juste pour terminer aussi sur ce sujet, non, j'ai oublié ce que je voulais dire. À part si que ben, les scènes entre les nanas sont pas mal, je trouve, quand même, les relations entre les...
C'est que moi, j'ai juste parlé d'un personnage que... Mon personnage préféré là-dedans, c'est le personnage qui est joué par Alice, qui est quand même la Ruskov. C'est celle, je trouve, qui a la trajectoire la plus intéressante. Elle est polonaise, pardon. Et vraiment, elle perd son mari qui, en plus, la battait. Donc, ça passe d'une femme battue qui reprend sa vie en main et qui décide de devenir active, qui va jusqu'à commettre un braquage. Et je crois que c'est elle d'ailleurs qui tue le père, ou c'est Michel Rodriguez, j'ai oublié.
Et
sa mère est super. Sa mère dit oui, bon, bah écoute, c'est bien gentil, ma fille, mais t'es belle, il serait peut-être temps de te prostituer, quoi. Et elle se laisse faire par sa mère, et finalement elle tombe sur un client qui est plutôt sympa, mais qui la considérera jamais comme sa femme. Elle a besoin d'indépendance et à la fin on s'en sort, et je trouve que c'est une très belle trajectoire. Marine ?
Aussi en termes d'intrigue, je sais pas si, enfin vous avez trouvé que c'était bien vissé, mais j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Alors peut-être moins sur Michelle Rodriguez où tu sens qu'elle a vraiment envie de participer au braquage parce qu'elle en a besoin dans sa vie, mais pourquoi les autres décident de se joindre à Veronica Rawlings ? Alors elle, tu le comprends tout à fait, elle est menacée
les autres aussi,
par les méchants.
Elle leur dit.
Mais elle leur dit, c'est à aucun moment.
Mais ça, c'est un mensonge.
Un mensonge.
Moi, pour moi, elle bluffe.
Elles sont pas menacées. Bah oui. Elles n'ont jamais été menacées. Ils ne menacent que Veronica. Et donc, si c'est un mensonge, bah, ça la rend plus intéressante, mais à aucun moment c'est révélé dans l'histoire, donc c'est pas traité.
Bah, on le sait, non ? Enfin, moi, pour moi, c'était limpide. Elle leur ment, elle les manipule. Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant.
Justement, je suis pas sûre que ce soit limpide. Moi, je suis pas certaine que ce soit prévu par l'histoire. Et du coup, soit c'est pas un mensonge, et dans ce cas-là, bah, ça marche pas parce que tu comprends pas pourquoi elles se joignent à Veronica. Enfin, pas pour toutes, mais quand même, globalement,
Je suis pas d'accord avec
toutes d'argent.
Mais par contre, si c'est un mensonge, je trouve ça dommage qu'à un moment, bah, ça ait pas été révélé et qu'elle rende compte qu'elle leur a menti pour les obliger à faire un braquage avec elle.
Claire.
Moi, je trouve que justement, depuis le début, le personnage de Veronica, il est clairement un peu ambigu. C'est quand même clairement... Enfin, on est loin justement du truc de la bonne bande de... La bonne bande.
Je suis désolée. Mais non, mais là où je suis pas d'accord avec toi, Marie, c'est que, un, oui, elle leur ment, clairement. Et deux, regarde, la polonaise, elle en a marre de se prostituer. L'autre, elle a une boutique, c'est sa boutique, c'est sa vie, elle est en train de lui piquer. Et la troisième, non, la seule qui marche pas, je trouve, c'est celle qui est babysitter et qu'on a marre de faire des doubles gardes parce qu'elle a envie de voir sa gosse.
On parle d'un braquage, quand même.
Ouais, on parle d'un braquage, c'est quand même risqué. Et puis honnêtement, enfin, t'as pas besoin d'un chauffeur pour ce genre de braquage, quoi. Elles auraient pu simplement rentrer dans la voiture, monter et se barrer. C'est pas la peine de, enfin, honnêtement, c'est pas la peine de couper un tiers de ta part pour en faire un quart pour juste avoir une chauffeuse. Fiona.
Bon, ça, qu'ils en aient besoin, si c'est écrit dans le carnet, moi je suivrai les instructions du pro.
Il est mort, hein. Donc il est pas si pro que ça.
Oui, mais non, justement, il est pas. D'ailleurs, l'indice qui nous dit qu'il est pas mort, c'est quand elle est à table avec avec l'amante. Quand il est à table quand Veronica est à table avec l'amante de Liam Neeson, et que l'amante lui dit oui, mon mari voulait plus trop traîner avec Harry parce qu'il devenait négligent, et Veronica dit il n'était pas négligent. Donc c'est un petit indice pour te dire qu'il n'a pas raté son coup, c'est impossible. Mais au-delà de ça, effectivement, la babysitter, ce qui est dommage en fait, c'est qu'elle n'a pas non plus on l'a jamais installée comme une folle du volant, quoi. Oui. Si elle était arrivée, merci Marie pour cette réflexion, elle m'en a parlé tout à l'heure. Effectivement, si elle était arrivée un jour en bagnole hyper vite parce qu'elle était en retard et qu'elle avait fait un créneau de ouf, comme ça, peut-être qu'elle serait dit ah, non, tiens.
Moi, elle prend le bus.
Ouais, elle prend le bus, donc on ne sait pas si elle sait conduire. Et en plus, pareil, la relation, elle fait confiance à la babysitter qu'elle a vue deux fois.
Oui, non, alors, ça va.
Si ça avait été une amie de longue date, c'est dommage, c'était facile à faire, ça, qui vient garder de temps en temps les enfants. Donc, la pleine confiance, ça aurait été un petit peu mieux.
Bon, il faut qu'on termine. Je vais quand même parler d'une scène que j'ai beaucoup aimée, mais qui je trouve est hors de propos. C'est la scène du flashback où on voit comment le fils de Liam Neeson et de Victoria est mort. Non, mais la scène est intéressante parce que c'est quelque chose qui se passe souvent aux États-Unis où c'est un noir qui est en train de conduire et puis il fait demi-tour et puis les filles croient qu'il a une arme et il le tue. Et donc là, le problème, c'est que pourquoi le couple va mal et pourquoi tout a commencé cette histoire et qu'il n'ose pas la quitter, c'est parce que leur fils est mort et Liam Neeson considère que c'est de sa faute. Parce qu'au téléphone, il dit fais demi-tour, j'ai besoin de ce qui était dans la boîte à gants. Mais le fait qu'il y ait ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit truand. Il dit c'est ma vie de truand qui a causé la mort de mon fils. Mais pas du tout, pas du tout. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et donc quitte ta femme proprement au lieu de faire tout ça. On s'arrête là pour ce film, tour final.
Mais non, pas du tout.
Ah non,
mais...
on ne s'arrête pas alors. Pardon.
Non, mais j'ai pas du tout l'impression qu'il fait tout ça parce qu'il n'ose pas quitter sa femme. Pour moi, c'est avant tout un truc politique et de pognon.
Mais non, mais moi j'ai compris la même chose que Claire. Pour moi, s'il veut pas quitter sa femme, moi il veut juste du fric. Et si ça peut lui permettre d'avoir une nouvelle vie avec sa femme, tant mieux. Mais il veut juste du fric.
Ouais, enfin, pourquoi il la prévient pas? Il dit pas, écoute, je te quitte et je me barre avec le pognon. Enfin, ça aurait rien changé.
On s'en fout. Enfin, lui, il est en deal.
C'est pour mort.
Il est en deal avec, exactement. Il est en deal avec Colin Farrell. Enfin, d'ailleurs, on en a absolument pas parlé, mais c'est vraiment pour moi le cœur du film. Il est en deal avec Colin Farrell et Jamal, qui sont chacun pour un bord politique, etc. Enfin, en fait, c'est sur fond de corruption, de fond de campagne un peu sale. Enfin, c'est ça le cœur du film. L'histoire d'amour, non, elle est complètement secondaire.
Non, non, vraiment, c'est pas le cœur du film.
Non, mais en tout cas,
dit, vraiment, on sait pas.
L'histoire, pardon, l'histoire qu'il a une maîtresse, c'est hyper secondaire. Pour moi, c'est vraiment un. C'est gadget, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui le motive.
Par contre, on sait pas ce que fait Liam Neeson, ce qui est censé faire. Liam Neeson dans la communauté en dehors de ses
parents. Voyou, on oui, comprend non, que
mais
c'est.
Il y a plein de monde à son.
Il était flic.
Il y a plein de monde dans son enterrement. Tu sais, il y a plein de monde dans son enterrement. Il y a le justement, Jack qui vient à la salle et dit j'ai travaillé avec votre mari. On n'est pas, on sait pas quelle est censée être sa couverture.
Ah, oui, oui,
c'est un mec qui trempe dans tout un tas de magouilles, qui est tellement dans des magouilles catastrophiques qu'il est obligé de mettre en scène sa mort pour s'en sortir. Il doit du fric à tout le monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Voilà.
Il faut qu'on arrête là. Tour final, ce film, Claire.
Et ben moi j'ai trouvé que ça faisait le job, que c'était un bon mélange des genres et voilà, et j'ai trouvé excellent retour de Colin Farrell, ça faisait plaisir.
Ok, Marine.
Bah même si l'intrigue est un peu foutraque et qu'il y a je pense trop de choses dans ce film, c'est quand même sympa à regarder.
Ok, Fiona.
Un peu pareil, trop long à démarrer, trop d'intrigue, mais la préparation au CAS m'a vraiment plu et le fait qu'elle se pose des questions justement de dire on est des femmes, comment on fait pour s'en sortir, on prend des masques pour se faire passer pour des hommes, on s'entraîne, j'aurais voulu vraiment voir plus de ça.
Bah écoute, oui, c'est un film qui est globalement moyen, je trouve qu'il y a trop d'intrigues, ils auraient dû beaucoup plus se concentrer sur le concept, c'est-à-dire les veuves, même si First Man nous apprenait que pour faire le deuil de sa fille, il faut aller sur la lune et jeter des chouchous, bah là, pour faire le deuil de son mari, il faut faire des braquages. Bon, d'un côté, c'est pas gagné, hein, avec Hollywood. Et on termine avec Casse-Noisette, écrit par Ashleigh Powell, et c'est Fiona qui nous le pitch.
Alors, suite à la mort de sa mère, Clara, une petite fille ingénieuse, a reçu en héritage une boîte contenant un cadeau inestimable. Le problème, c'est que Clara n'a pas la clé de cette boîte. Ainsi, lors du bal de Noël organisé par son parrain borgne, Monsieur Drosselmeyer, je sais pas le dire, Clara lui demande son aide et l'homme lui offre une porte d'entrée vers un monde féerique où les jouets sont faits de chair et d'os. Dans ce monde, Clara va trouver sa clé avant de se la faire dérober par une souris et va y rencontrer Philippe, un soldat casse-noisette venu l'aider. Philippe va lui présenter trois des quatre royaumes qui constituent ce monde, à savoir le royaume des neiges, celui des fleurs et celui des bonbons, régi par la fée Dragée. Cette dernière va apprendre à Clara que le quatrième... C'est pour enfants, d'accord. Cette dernière va apprendre à Clara, donc la fée Dragée, que le quatrième royaume, celui du divertissement, est régi par l'abominable mère Gingembre, qui tente... Ça va être dur d'aller au bout, qui tente de prendre le contrôle sur les trois autres royaumes. Pour se protéger des attaques de Mère Gingembre, Clara va devoir récupérer la clé volée par le roi des souris afin d'activer une machine et créer une armée de soldats de plomb. Seulement, elle va vite découvrir, un peu trop tard en fait, que... Donc pas si vite.
vers les trois quarts du film.
Que c'est en fait la fée Dragée qui veut contrôler les royaumes et non la Mère Gingembre à qui elle fait porter le chapeau. Pour sauver ce monde féerique qui a en fait été créé par sa défunte mère, Clara va devoir lutter contre la fée Dragée et son armée de soldats de plomb avec l'aide de Philippe, de la mère Gingembre, des souris et des rois des deux autres royaumes. Eux, ils servent strictement à rien.
Oui, c'est des petits personnages amusants. Alors, le problème de ce film, c'est que ça va être compliqué à critiquer parce qu'il faut se mettre à hauteur d'enfant. C'est vraiment un film, pour moi en tout cas, c'est pour les tout, tout petits. C'est vraiment un film, moi j'ai jamais vu Narnia, mais clairement ça sort sur cette vague de monde fantastique où des enfants qui arrivent et qui disent, c'est le schéma classique de ta vie te fait chier, ton père te fait chier, t'inquiète pas, suis des inconnus dans des manoirs, ouvre des portes qui vont t'amener vers des contrées magnifiques. Et en général, quand tu arrives dans une contrée magnifique, t'es pas juste un roturier, non, t'es prince ou princesse ou reine. Et donc elle arrive, tout le monde se met à genoux devant elle, ma grande reine, c'est clairement fait pour faire rêver les enfants. Est-ce que ça a ouvert ton cœur d'enfant, Fiona ?
Alors, moi, je travaille beaucoup pour les enfants parce que je fais beaucoup d'animation. Mm-hmm. Donc, ça me dérange pas du tout de me mettre dans le cœur de la cible et de réfléchir comme un enfant à qui le film est destiné. Et alors, j'ai trouvé... Au début, je me suis dit, c'est vraiment... Ça va faire rêver les petites filles. Oui, je fais du genre, excusez-moi. Mmh. Mais oui, y a des, c'est beau et... Ils ont des belles robes, même le bal, la neige, tout est joli.
Est-ce que je peux dire truc, pardon, oui. Excusez-moi. Est-ce que je peux intervenir et dire truc ou non
si oui, tu peux, oui. Non,
je me dis, ça fait, c'est vraiment là pour faire, pour faire rêver, ça marche bien. Et après, plus on avance, et justement, alors qu'on est pour les enfants, je trouve que l'histoire est très confuse au niveau de ce que ça raconte et au niveau des motivations des personnages.
Ah d'accord, j'ai cru que tu parlais de l'intrigue.
L'intrigue aussi, en fait.
Non, l'intrigue est ultra basique.
Non, mais elle est confuse dans le sens où on ne sait pas pourquoi... Alors, on dirait que la fée de Rager agit parce qu'elle a été abandonnée par la mère de Clara qui en fait est partie de ce monde-là et qui est morte dans le vrai monde.
Ah oui, non, mais c'est un film sur le deuil, clairement. C'est un film pour apprendre à faire le deuil. Le cadeau que reçoit Clara au début, c'est le dernier cadeau de sa mère. Elle a du mal, elle lui en veut un petit peu de l'avoir laissé avec son père, avec qui elle a une relation compliquée. Et dans le monde féerique, tout le monde souffre de ça, entre guillemets. Ils attendent désespérément le retour de la mère, et quand ils apprennent sa mort, ça parle de ça. Et la fée de Rager devient méchante. Enfin, c'est mon interprétation. Non, mais à la base, elle était gentille, mais elle est devenue méchante parce qu'elle considère que sa mère l'a abandonnée. Et en fait, la fée de Rager aurait pu être ce que deviendrait Clara si elle n'avait pas appris à pardonner entre guillemets à sa mère de plus être là pour le reste de sa vie.
Pourquoi pas? Mais là, c'est ce qui est mal fichu dans le film parce que la mère Gingembre, alors elle a été soi-disant bannie, mais enfin, on voit qu'elle peut encore communiquer avec les autres. On comprend pas pourquoi la mère Gingembre dit non, moi je vous veux pas de mal, quoi. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça, quoi. Et donc, on ne comprend pas comment il peut y avoir ce quiproquo. Ça n'a pas de sens.
Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'on voit très bien justement ce que tu disais au début, c'est que le roi de la neige et le roi des fleurs, clairement, c'est deux baltringues qui n'ont aucun caractère. La fée de Rager, elle a réussi, on ne sait pas comment, à virer, à les mettre dans sa poche. Et ces trois contre un, ils ont réussi à l'exclure. Et en fait, c'est la grande méchante. Les deux autres ne servent à rien. Donc du coup, ça encore, moi j'y crois. Non, là où ça ne marche pas, par contre, c'est ce coup classique. Le personnage, il suffirait qu'il s'assoie 5 minutes à une table et qu'il parle. Quand Clara va voir la fée Gingembre, elle pourrait très bien lui dire « Non, alors en fait, assis-toi. Alors en fait, je ne suis pas du tout la méchante. On m'a manipulé tout ça. Et, excusez-moi, mais enfin, quand t'es la gentille, pourquoi est-ce que tu vis dans un endroit qui est abandonné, qui est infesté de rats, où il y a des manèges hyper glauques, et ces gardes du corps, c'est des espèces de clowns poupées russes. Ils font hyper peur. Enfin, je veux dire, si t'es gentille, fais pas ça comme garde du corps.
Il y a ça, mais encore une fois, je reviens sur la motivation de la fée de Rager. Elle en veut à Marie, mais en quoi le fait de posséder les trois autres royaumes va l'aider à faire son deuil? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle veut détruire tout le monde, enfin, elle veut être la chef, je comprends pas.
Ah, non, mais ça, c'est du cri qui est à peu près de la moitié des films du monde, ou pourquoi est-ce que Liam Neeson il veut plus de pognon, enfin elle veut plus de fric, plus de pouvoir, elle veut devenir la patronne.
Je trouve ça pas clair, mais en plus je trouve ça d'autant pas clair sur ce que ça dit par rapport justement pour un film pour enfants. Normalement tu portes un thème assez fort que tu tires tout le long du film. Là alors le secret, là, je vous le dis, qu'il y avait dans la boîte quand elle arrive à l'ouvrir assez rapidement et très facilement, mm-hmm. c'est juste un miroir où elle se regarde, et en fait, c'est sa confiance en soi.
Ouais.
C'est ça. Faut oui, ça c'est ça, le don inestimable, c'est la confiance en soi. Donc c'est quoi? C'est un film sur la confiance en soi? C'est un film sur le deuil?
Ça, c'était pas très clair. Ça, ils ont voulu le mettre.
On tire pas la thématique.
Le miroir, c'est la confiance en soi?
Oui. En fait, elle se voit dedans, et en gros, c'est ça, le don inestimable, c'est toi. C'est ta confiance. Il n'y a pas quelque chose derrière le miroir, d'ailleurs, je sais plus.
Oui.
Enfin bref.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle ouvre, on croit que c'est une simple boîte à musique. Et en fait, quand elle est juste après le climax d'acte 2, c'est-à-dire que la fée Dragée a gagné, elle a enfermé tout le monde, pourquoi elle les tue pas d'ailleurs, mais elle a enfermé tout le monde dans une prison, elle est en train de construire son armée de soldats, on croit qu'on est foutu, et puis Clara, elle ouvre son cadeau, et puis donc on fait « Oh mon Dieu, mais il y a un miroir, mais c'est moi la solution », parce que sa mère lui a dit « Dans cette boîte, il y aura tout ce que tu auras toujours besoin dans ta vie ». Et en fait, c'était elle dont elle avait besoin, ouais, tu comprends?
Voilà, c'est beau. On peut rejoindre un peu
Et j'ai pensé que la musique, allait être le bruit qui allait tuer les soldats de plomb. En fait, ouais, pas du tout.
Mais
c'était vraiment elle, quoi.
Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a dérangé? Ah oui, il y a autre chose aussi, c'est que déjà, je trouve qu'il ne faut pas y aller avec trop petits, parce que ça fait un petit peu peur, mais après.
Mais c'est pas mal, ouais, niveau. Le monstre de souris, parce qu'il y a plein de souris qui s'agglomèrent ensemble pour faire un monstre d'énormes souris, il est plutôt flippant, en plus, il arrive assez tôt dans le film.
Moi, c'est ça, en fait, je me suis. Bon, là, c'est avec mes yeux d'adulte, mais je me suis dit, moi, j'ai très peur des souris. Donc déjà, j'étais pas contente. J'avais extrêmement peur, parce que j'aime pas les souris. Et je me suis dit, c'est bizarre. C'est un film Disney, et les souris sont méchantes. Ça n'existe pas chez Disney. Non mais c'est vrai, les souris sont toujours gentilles chez Disney. C'est parce que Mickey, c'est comme ça. Donc je me dis, tout de suite, ça m'a un peu aiguillé vers le twist.
Qu'est-ce que t'es, Marine ?
Et en plus, la fée de Rager, qui est quand même le pays des bonbons, est gentille. Ça aussi c'est bizarre parce que les bonbons c'est mal. Et du coup,
mangerbouger.com.fr.
Mais les divertissements et s'amuser toute la journée non plus, hein, c'est pas.
Non
terrible,
mais si,
hein.
Le divertissement pour Disney. C'est positif, c'est le fun, c'est le royaume du fun, etc. Mais manger plein de bonbons, c'est pas bien. et les souris, c'est gentil. Donc ça aide un peu dans le twist.
Mais les enfants, après, ils ont rien vu venir. Enfin,
oui,
ça,
non,
c'est
non, bien sûr,
qui...
les enfants, ah,
rien
non,
les enfants,
rien. Mais c'est dommage, moi j'aurais bien voulu que pour une fois, les souris soient vues comme telles, c'est des horribles créatures.
Mais... Alors que non.
Et
non,
au-delà de ça, il y a plein de personnages, il y a des personnages qui servent absolument à rien, qu'ils ont repris à mon avis parce qu'ils y sont dans le dessin animé de Disney, je crois, il y a longtemps, de Casse-Noisette peut-être par exemple. Clara a un petit frère et une grande sœur qui ne servent absolument à rien et qui au contraire moi je trouve dilue la relation qu'elle a avec son père un peu compliquée. Donc bon bref, c'est dommage. J'étais franchement déçue par ce film.
Écoute, c'est pas spécialement mauvais. Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Encore une fois, je me suis mis à hauteur d'enfant. Je me suis dit, pour les enfants, moi, c'est une histoire classique, fille de fille. Quand t'es gamin, t'as envie de te sentir plus important que les autres. Et là, c'est tu te projettes sur ce personnage qui est plus important que les autres et qui devient une princesse d'une contrée et qui finit par gagner. Enfin, c'est une histoire extrêmement classique de Disney. Enfin, je vois pas à quoi tu pouvais t'attendre.
Vas-y, moi, j'adore Disney. Et moi, dans Disney, j'ai toujours des émotions. Souvent, je pleure dans le Disney.
T'as pas pleuré là ?
Enfin, regarde la différence entre Coco et ça. Enfin, tu vas vite comprendre. Tu pleures devant le Disney, tu ris. Là, il y a pas d'humour. Il y a pas d'émotion, quoi. Donc, je trouve ça très dommage. Et il y a pas non plus de trajectoire émotionnelle forte pour le personnage. On comprend pas tout ce qu'elle fait. Et à la fin, au début, je me suis dit, ah cool. Je suis allée le voir seule à 9h du matin, première fois de ma vie, au hall, où il y avait pas d'enfants du tout dans la salle. Je pensais qu'il y en aurait. Mm-hmm. J'aurais bien voulu, mais au début, je me suis dit, tiens, j'ai deux petites cousines. Trois même d'ailleurs. Petites cousines, je voudrais les emmener voir ça. Au début, plus ça avançait, plus je dis, non, en fait, c'est pas intéressant. Ça va rien leur apprendre, ça va rien leur amener.
Si ça va leur donner confiance en elles.
Même pas, non. Je trouve ça décevant. Voilà.
Est-ce que pour Noël, tu vas leur offrir deux petits miroirs à tes cousines pour que...
Ah, peut-être. Ouais, je vais peut-être leur emmener un miroir en disant, regardez. Comptez que sur vous parce que c'est pas les films Disney qui vont vous aider.
Un des autres problèmes, c'est qu'elle est caractérisée comme quelqu'un qui est fort en mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une scène où Morgan Freeman, qui est encore là pour tout expliquer à tout le monde, il dit oh, regarde, j'ai un problème sur ma machine, s'il te plaît. Puis elle prend un tournevis, vraiment, tu le vois, elle fait oh, c'est se démerder et tout. Ça sert une fois dans le film pour piéger à la fin, où carrément elle est devant l'énorme machine qui sert à transformer les soldats de plomb en soldats réels. Et en gros, mais il y a carrément un bouton disant tu es le méchant. Puis elle appuie dessus et puis bah ça tue le méchant.
Si
donc,
alors on voit qu'elle est un petit peu maligne scientifique, elle utilise les lois de la.
Ah oui non mais ça tient pas debout.
Qui ne sont pas vrais je pense.
Alors non mais je dis pas que c'est pas vrai. Ah bon, je dis qu'il y avait une solution beaucoup plus simple. Enfin tu tiens la corde et puis tu me laisses descendre en rappel.
Oui,
pourquoi
oui, non,
parce qu'ils prennent un risque.
Tout un système de balancier pour descendre d'une montagne.
D'une tour
très dangereux et tu en disant mais c'est juste pour dire regarde l'école va t'aider.
Ouais, voilà, c'est regarde, nous les filles, on peut être fort en maths. Et à propos de ça, d'ailleurs, quand elle s'enfuit, elle arrive sur une falaise, cascade, mais avec hyper glissant. Moi, je crois qu'ils étaient bloqués. Ils disent bon, allez, moi je vais, toi tu vas dans la forêt, moi je vais. Je dis mais vous êtes coincés. Et non, elle est pas coincée. Elle descend une espèce de falaise rocheuse complètement trempée. Tu te souviens pas? Ça, c'est juste à la fin. Et je me dis mais c'est hyper dangereux de passer par là, quoi.
T'es en général. Quoi.
Bah ouais, mais oui, mais c'est un côté aventure. Mais en général, on évite de faire des choses reproductibles. Et là, clairement, c'est reproductible. Hein. Les gamines, si je vous le dis, si vous êtes au film, n'allez pas sur des falaises rocheuses pour aller sauver vos amis les souris. Ça ne marchera pas. Hmm, on termine là sur ce film, Fiona, tour final.
Non, je m'attendais, je voulais vraiment voir un film de Noël pour enfants. J'étais dans l'esprit, j'étais à fond, et comme je l'ai dit, j'étais déçue. Allez, franchement, retournez voir La Reine des Neiges si vous l'avez pas encore assez vu, ou n'importe quel autre Disney valent mieux que ça. C'est trop superficiel.
Écoute, oui, c'est pas terrible, mais j'en attendais pas grand-chose. J'ai l'impression que j'en attendais beaucoup moins que toi. Et point positif quand même, la musique est magnifique.
Oui, c'est le positif, c'est que du coup ça amène les enfants à écouter ça, et ça c'est vrai que c'est positif.
Et la scène de bal au début est très très belle. Hein. Très vraiment, les costumes sont magnifiques. Et ils chantent du Tchaïkovski, ils dansent des valses et tout, où justement cette intrigue où son père va absolument danser avec ses enfants. C'est peut-être un peu bizarre, mais à quel point il insiste. Dis, hein, tu vas danser avec moi, hein? Hein,
non, je crois que c'est pour se rapprocher, mais et pareil aussi. À un moment, on parle aussi sur le thème des gens qui souffrent sans qu'on le voie. Il dit au début Morgan Freeman, c'est Morgan Freeman. Il lui dit les gens sont plus, certaines serrures sont plus difficiles à ouvrir que d'autres. Ça, j'aimais bien. Et je pensais que ça allait parler de ça, de le fait que parfois il faut creuser. Les gens n'expriment pas leurs sentiments pareil, et que peut-être que son père, qui a l'air si fermé, etc. En fait, il s'ouvre beaucoup, et faut juste l'aider à trouver la bonne clé pour pouvoir lui parler. Et j'aurais voulu en fait que ça parle de ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'aurais voulu que ça parle de ça.
Un petit peu à la fin. Elle comprend que c'est important pour lui.
Pour un film, en général, c'est pas bon, et pour un film pour enfants, encore moins.
Oui, c'est pas faux. On termine par les recommandations ou les dérecommandations de la semaine, Claire.
Moi, je recommande Silvio et les autres.
Ah oui, voilà, je voulais le mettre au podcast, on a voté contre.
Pour nos amis italiens.
Il n'y avait pas cette salle où ça jouait.
Ouais, c'est ça, bah justement, il faut le soutenir, il est dans deux salles de façon assez inexplicable. Donc voilà.
Est-ce que c'est bien
Sorrentino. C'est pas le meilleur Sorrentino, mais c'est pas non plus un grand film de scénario, mais c'est quand même un bon film.
Donc c'est une demi-recommandation.
C'est une recommandation soutien à notre ami Paolo.
C'est mignon, oui. Marine ?
Moi, je vais recommander un manga qui s'appelle Bakuman. Mm-hmm. J'ai pas le nom de l'auteur, mais c'est celui qui a fait Death Note. Mm-hmm. Et donc, c'est sur deux gamins qui veulent devenir les meilleurs mangaka. Et en fait, c'est vraiment très bien, surtout quand on est scénariste ou qu'on s'intéresse à l'écriture en général, parce que c'est vraiment sur la création, comment on écrit, leur rapport avec leur éditeur, même sur techniquement, comment ça se passe d'être publié, qu'est-ce que ça engage comme responsabilité, etc. Donc, il y a 20 tomes et c'est vraiment très, très bien.
20 tomes. Ah, c'est une série bouclée ?
C'est une série bouclée.
Ok. Et Fiona ?
Moi, je vais dérecommander la troisième et je pense dernière, je ne sais pas, saison de The Good Place. J'avais vraiment bien aimé la première, accroché à peu près aussi avec la deuxième, mais là, la troisième, on sent qu'ils sont vraiment au bout de leur concept et ça patine, et à tel point que je crois que je suis arrivée au cinquième ou sixième épisode et je m'arrête là, et c'est un peu triste parce que vraiment, je prenais vraiment plaisir, donc arrêtez-vous la deuxième, c'est bien.
Oui, je suis pas d'accord, moi je trouve que c'est moins bien, mais les saisons sont moins en moins bien, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça tient encore la route, et ça dure que 20 minutes par épisode, et puis tu peux regarder en accéléré, hein, c'est vraiment... moi je vais recommander une série qui passe sur Netflix.
Attends, tu recommandes pas un jeu vidéo ?
Non,
mais qu'est-ce qui se passe ?
Mais excuse-moi, j'ai envie de faire ce que je veux.
T'es malade ?
Je vais recommander. Non, c'est pas sur Netflix, c'est sur Amazon Prime, une série qui s'appelle Dutchland. Raconte l'histoire. Je parle de ce que je veux. Donc c'est une série qui nous raconte l'histoire d'une entreprise allemande qui vient s'installer dans Pays Basque, et ça nous parle de l'adversité, et les opinions et les clichés qu'on a entre français et allemand, et j'encourage tout le monde à la regarder. Et je ne dis pas ça parce que certaines personnes à cette table ont participé à l'écriture. Je ne dirai pas qui pour par pudeur.
Pour préserver sa dignité.
Oui ou non ? Non, parce que, honnêtement, ça se regarde. On s'arrête là pour cette fois et on se donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt.